עיניכם הרואות, וזה יבוא de quoi je vous parle, qui pire d'avers les femmes. Et c'est ça, ça que je vous citais la semaine dernière. Vous y êtes ? Attends, qui avait posé ? Ah, c'est toi. Okay. Alors, on va arriver par là au premier mot de la paracha. Ré, voix. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors, on va prendre le premier verset de la paracha. Voilà, je vais en profiter pour rattacher cet enseignement de l'avoir du verset, un problème plus général. Attendez, je vais essayer de voir comment j'organise l'étude, parce que il est...
C'est
d'accord, on a le temps. Allez, une minute, je vais... Tiens, regarde, tu vas prendre... Tu vas en bas. Voilà, il y a dans le verset un contenu d'enseignement qui est important pour lui-même, et qui est que il y a un libre arbitre de l'homme et que être donné à la vie, c'est être donné à une expérience de choix. C'est-à-dire, tout se passe comme si nous avons été créés dans ce monde-ci pour être éprouvés sur ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix entre le bien et le mal. Je vais rattacher ça d'abord à un problème un peu plus général, vous direz si c'est suffisamment clair. On peut se demander pourquoi Dieu nous a créés dans un monde imparfait. C'est un problème théologique pas simple. Il est évident qu'il y a, comment dire, un décalage entre ce que la Torah semble dire du monde, dans le jugement de Dieu, que tout est bien, et la réalité de l'expérience que nous avons. Nous avons, nous, les créatures, l'expérience d'un monde où il y a le bien et le mal. Or, la Torah semble, je dis bien semble, parler d'un monde qui n'est que bien. Il y a là un décalage que beaucoup de consciences religieuses, par pudeur, n'osent pas se poser comme question, mais qui préoccupe souvent énormément de consciences, même pieuses, même religieuses. La crainte du blasphème de dire, mais enfin, le monde tel que nous l'expérimentons, eh bien, c'est pas comme ça que la Torah en parle. Et puis, dès qu'on a passé le premier chapitre, où il semble que, vous voyez, ce verset qui revient de façon systématique, et Dieu vit que tout était bon, et Dieu vit que tout était bon, subitement, on bascule, non, la faute. J'ai remarqué ça. Au point que ça semble donner raison, on dit bien, ça semble donner raison. Disons, ça explique pourquoi, pour la pensée naturelle de l'homme, ce qu'explique la théologie chrétienne du péché originel semble plus vraisemblable. Enfin, vous nuancerez un peu ce que je dis là, je voudrais parler un peu vite pour gagner du temps. Ça veut dire, au point que on a trouvé, c'est la théologie chrétienne, comme ça l'explication, que le monde était parfait, puis est arrivé une catastrophe, le péché originel, qui fait que le monde est devenu ce qu'il est. Alors, l'explication par le péché originel, de la manière chrétienne, n'explique rien du tout, parce que d'où vient que cette possibilité ait été mise dans la structure même du monde. Ça fait que repousser le problème, en particulier, une des formulations de cette thèse du péché originel, c'est-à-dire que le premier homme aurait été tenté par un ange déchu. Alors, d'où vient que l'ange a été déchu ? Ça, Lucifer, vous avez entendu parler de ces choses-là, mais... Lucifer, qui était un véritable ange, porteur de lumière, mais voilà, il a déchu et il a tenté le premier homme et la première femme. Et ce qui est impressionnant, c'est le nombre de consciences de bonne foi qui croient en ces mythes. C'est inouï, la quantité de consciences humaines qui ont vécu en croyant à ces mythes-là, sans se rendre compte de l'invraisemblance. Pour expliquer l'apparition du mal, alors on explique l'apparition du mal par l'apparition du mal. Mais ce n'est pas une explication. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le premier homme a été tenté ? Un ange déchu. Mais qu'est-ce qui fait que le premier ange a été déchu ? Vous avez compris le problème. Ce n'est que repousser la difficulté. Or, en réalité, c'est parce qu'on lit la Bible dans les traductions, on ne se rend pas compte de ce que veut dire le récit biblique, lorsque le récit biblique veut dire que quelque chose est bon. Et malheureusement, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps, mais je vous en voudrais rappeler, moi, à la fin du cours, les références, vous allez voir que cette question a été expliquée dans notre parasha. Qu'est-ce que ça veut dire « bon aux yeux de Dieu » ? Le Maharal, je vous donne tout de suite une des réponses importantes, le Maharal explique, c'est ce qui mérite d'exister qui est appelé « bon ». Et effectivement, il y a toute une dialectique dans le Midrash, c'est que même ce que nous connaissons comme étant le mal fait partie de ce bon qui mérite d'exister. Mais j'y arrive. Et c'est expliqué à propos du verset, et Dieu vit toute l'œuvre qu'il avait faite à la fin des six jours, Vehine Tov Meod. Et il vit que c'est très bon. Et le Midrash explique, qu'est-ce que c'est Meod? Très bon, ça c'est la mort. Bon, c'est bon, mais très bon, ça c'est l'autre côté. Effectivement, parce que je crois que même dans la sagesse des nations, il y a une phrase comme ça, le mieux est l'ennemi du bien. A Tov vers Métiv. Métiv, ça fait mal. Tov, si je me contente de Tov, c'est Tov. Mais si je veux plus que Tov, le Métiv, ce qui améliore, c'est ça qui fait venir. Et il sourit, c'est ça qui fait venir. Bon, c'est encore une autre dimension du problème. Mais en réalité, le texte dit que, à part la lumière, tout ce qui a existé n'est que l'approximation de ce que Dieu a voulu. Je vous l'explique en hébreu très directement. Il n'y a que la lumière pour laquelle le verset dit « Yehi or vayi or » qu'il y ait lumière et lui lumière. Pour tout le reste du projet du Créateur, il y a « vayi chen » et il en fut ainsi. Regardez bien le texte. Or « chen » qu'on traduit par « ainsi » ne signifie pas la même chose. Ça signifie « comme ». Kemo. Chen, c'est une approximation de la chose. À peu près. Il y a un mot latin qui est très précis à ce sujet et que vous connaissez en français, c'est le mot quasi. Quasi se traduit par chen en hébreu. Ça veut dire, reprenez le texte. Chen. Oui, ça veut dire oui. Ça se rattache à nachon. On approuve parce que c'est suffisamment approximatif, mais ce n'est pas la même chose. Et regardez, c'est un enseignement que je vous donne, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Chia Anassi, qu'on appelle Rabbi Chia Anassi Asfaradi, et qui a écrit le Nefesh, le Igayona Nefesh, qui vivait au 9e siècle, dans le sud de la France, au nord de l'Espagne, un grand exégèse. Et je vous donne le plan de son explication, vous allez la retrouver en relisant le premier chapitre de la Torah. Il y a quatre catégories d'existants. Ceux pour lesquels le texte a dit « Yéhi » qu'il y ait. Alors ceux-là ont l'éternité dans ce monde-ci. Par exemple, « Yéhi Or », la lumière est permanente dans ce monde-ci. Et s'il y a aussi « Vayhi » avec le nom de l'objet que l'on désigne, c'est permanent dans le monde à venir. « Yéhi Or »,« Vayhi Or ». La lumière est permanente dans ce monde-ci, permanente dans le monde à venir. Ensuite, les réalités célestes. Il y a « Yéhi » Yehi Rakiyar, qu'il y ait le ciel. Le ciel est permanent dans ce monde-ci, mais disparaît dans le monde à venir, et il y a des versets pour ça, parce qu'il y a écrit Vayi Chen, qu'il y ait un firmament, et il y eut ainsi. Et alors, la troisième catégorie, c'est les êtres terrestres, pour lesquels il n'est pas dit Yehi. Et par exemple, Naase Adam, faisons l'homme, Tatche Aret, que la terre produise des herbes, des. Ou bien, Totseares Nefesh Chaya, que la terre produise des animaux. Il n'y a pas Yehi, donc ce n'est pas permanent dans ce monde-ci. Les existants terrestres, biologiques, sont mortels dans ce monde-ci, et mortels dans le monde à venir, puisqu'il y a Vayi Chen. Mais pour l'homme, il y a Vayi Adam Nefesh Chaya, et l'homme devint Vayi Adam, personne vivante, il sera immortel dans le monde à venir. C'est une explication du Igayon Nefesh. Et alors, de ces explications, j'isole ce principe de Vayi Chen. Et il n'en fut ainsi, et ça veut dire il n'en fut qu'ainsi. Voilà, l'argument, pour répondre à votre question, c'est qu'il compare Yehi Or, Vayi Or, qu'il y ait lumière, il y eut lumière, c'est-à-dire c'est de la lumière qu'il y a eu. Tout le reste, c'est une approximation de ce que le projet a désigné. Il n'y a qu'une seule philosophie, j'ai trouvé quelque chose d'analogue, c'est la caverne de Platon. C'est-à-dire, à part la lumière, tout le reste n'existe qu'en nombre de ce que ça pourrait être. Bon, c'est pas exactement ce que dit le Rabbi Chia, mais ça va un peu dans le même sens. Et alors, je reviens à l'exposé. C'est-à-dire, le sens qu'il y a là, c'est que il y a le projet du monde, c'est le monde en vérité, et le monde en vérité, au niveau du projet, est parfait. Il y a la réalité du monde, le monde en réalité, le monde au niveau de la réalité est dans l'imperfection absolue. Le projet du monde est que tort, que bien, la réalité du monde est bien et mal. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce décalage entre le monde de vérité, qu'on appelle marché rétamoré, le projet du créateur, et le monde de la réalité, de la médecine. Alors l'affirmation du monothéisme, c'est que celui qui a voulu le monde de vérité a créé le monde de la réalité. Tout l'optimisme de la tradition de la Bible. Tandis que dans la pensée grecque, on bascule dans le pessimisme, parce qu'il y a un divorce irrémédiable entre la vérité et la réalité. La vérité et la réalité ne coïncideront jamais, d'où le tragique de la pensée grecque. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur. Alors, je reviens. À partir de cela, sans pour oublier qu'il y a un échafaudage. Le monde de la réalité, c'est un monde duel. Bereshit, ça commence par Bet. Un monde des deux contrastes, le bien et le mal, où nous sommes situés comme une sorte d'antichambre en vue d'un test. Qu'est-ce que tu préfères, le monde du bien ou le monde du mal? Tout ça passe comme si nous sommes situés dans un monde qui est un vrai monde, une préhistoire du vrai monde, qui est une sorte de mise à l'épreuve sur la question suivante, est-ce que tu mérites d'avoir été créé? C'est lorsque le mérite est acquis qu'on est créé vraiment pour le monde à venir. Non, je le sais pas. La Torah annonce d'emblée que ce monde-ci est provisoire. C'est le monde de la réalité qui précède le monde de la vérité. Et le monde de la réalité a un objet nécessaire. C'est le monde de la mise à l'épreuve du libre-arbitre. Voilà quel est le problème. Alors c'est ce problème-là qui est dans le premier verset. Ré, voix, anochi, c'est moi. Il n'y a pas ani, je, mais il y a anochi, c'est moi qui. Noten ifnechem, qui donne devant vous, qui place devant vous, ayom, aujourd'hui, beracha oklala, bénédiction et malédiction. Oui, c'est le même problème. Oui, être donné à l'existence, c'est être donné à un dilemme. L'existence n'est pas neutre, elle est ou bien ou mal. Si elle est du côté du bien, elle est bénédiction. Si elle est du côté du mal, elle est malédiction. C'est clair? Bon. Et alors c'est parce qu'on ne prend pas garde au sérieux avec lequel la Torah dit directement délivre ses messages qu'on est encombré par des faux problèmes. Par exemple, celui que j'ai signalé tout à l'heure, est-ce que la Bible ne sait pas que le monde de la réalité où nous sommes n'a rien à voir avec le monde idéal du bien parfait? Vous comprenez qu'on est tout à fait en dehors de la théologie chrétienne. Ce n'est pas un monde parfait qui, magiquement, est devenu imparfait. C'est un monde qui est parfait dans son projet, mais qui est réalisé dans un tzimtzum, dans une diminution d'être au niveau de la réalité, qui est la préface au monde, qu'on appelle en hébreu, alors là-bas, le monde qui est en train de venir. Je veux dire que la Torah n'a pas à nous enseigner que ce monde-ci mène à un monde à venir. Si nous ne le percevons pas par nous-mêmes, on n'est pas concerné. C'est-à-dire, l'homme de foi perçoit ce monde-ci comme ce monde-ci d'un monde à venir. Sinon, dire que c'est Dieu qui l'a créé serait un blasphème. Ce que Dieu a créé, c'est le monde à venir. Et il a diminué ce monde-ci intentionnellement. Ce n'est pas un Lucifer qui a fait ça. C'est le Créateur. Il l'a diminué dans la dimension de ce monde-ci. En lui disant, rejoins le projet. Voilà. Attendez une minute. Non, ne m'interrompez pas quand je n'ai pas fini. Vous faites oublier ce qui vient après. Donc, où j'étais, que je raccroche. Oui. Et ce qu'on lit dans les premiers versets. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était chaos. Il y a le contraste entre les deux versets. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et créé, c'est le projet du Créateur. Le ciel et la terre du premier verset sont parfaits. Et la terre était devenue chaos. V'aretz haïta tohu vabohu. C'est pas la théière et tout. Ça veut dire que la terre est devenue chaos. Et là, je vais poser trop de temps pour vous expliquer le mécanisme de ce chaos. C'est le Hari qui a expliqué ce qui se passe entre le premier et le deuxième verset. Je vais attaquer les. C'est-à-dire, le monde de lumière, le monde parfait, le monde du Olamaba, existe déjà avant ce monde-ci. Il existe dans le projet du Créateur. Et c'est ce projet qui est diminué dans la dimension de la réalité. Et le rôle de l'homme, c'est de mener la réalité au niveau de la vérité. À travers quoi? À travers cet exercice du libre arbitre, si je préfère le bien au mal, je dis par là même que je mérite d'avoir été créé et j'aboutis au monde qui n'est que bien. C'est très très schématisé, résumé, tout l'essentiel de la doctrine du judaïsme. Le créateur de ce monde-ci est celui qui a voulu le monde à venir. C'est-à-dire, c'est en vérité le monde à venir qu'il a voulu. Et nous affirmons que lui, qui a voulu le monde à venir, a créé, dans le sens a fait, ce monde-ci, comme antichambre du monde à venir. Quelle est votre question avant tout?
Oui, je voulais savoir comment ça serait l'idée messianique.
Eh bien, l'idée messianique, c'est l'idée d'un seul monde-ci qui est déjà suffisamment prêt pour être antichambre du monde à venir. C'est-à-dire, ce monde-ci, mais bien. Or, ce monde-ci, je vous cite un enseignement du Rav Nachman de Breslav qui éclairera peut-être cela. Rav Nachman de Breslav disait à ses élèves ceci. On parle du monde à venir et de ce monde-ci. Mais le monde à venir, on comprend. Mais ce monde-ci, où c'est? Ici, c'est l'enfer. C'est le Rav Nachman qui dit. Pas ici, à Jérusalem, hein, là où il était là-bas. Effectivement, si on accepte de voir ce monde-ci avec les yeux de la réalité, c'est ce que dit le Midrash à propos du Méod. Méod, c'est Mara, Efer, Vedam. C'est l'amertume, la cendre et le sang. Il faut lire le monde pour savoir ce que c'est que le monde. Vous lisez le journal et puis vous voyez ce que c'est que le monde. C'est un monde de boue, de... Il suffit de se rendre compte de ce qui se passe au Rwanda. Et c'est un des épisodes de la longue histoire de l'humanité. On a connu la Shoah, maintenant les Goyim connaissent leur Shoah avec ça. Ça veut dire un monde. Il peut se passer une chose pareille. Comment on peut dire que c'est ce monde-ci? C'est même pas ce monde-ci, dira Maran, c'est l'enfer. Bon, la responsabilité de cela, pourquoi on en arrive là, tout ça c'est un autre problème. Mais Olda, la réalité est que on ne peut pas imputer à Dieu un monde pareil. C'est un blasphème. C'est pourquoi on dit, bah, oh, je sais que on a plutôt la pareille, la voix basse. C'est un enseignement, mais vous connaissez. Okay. On ne peut pas glorifier Dieu d'avoir créé ce monde à voix haute. Alors on le dit à voix basse. Sauf le jour de Kippour, où on est comme des anges, alors on dit cette phrase à voix haute. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tous les jours de l'année, le Satan nous accuse d'être hypocrites si on glorifie Dieu d'avoir créé ce monde. Mais un jour, il ne peut rien contre nous, c'est le jour de Kippour. Ce jour-là, on est comme des anges. On peut remercier Dieu d'avoir créé notre monde. Mais on est enfermé dans un monde angélique. C'est le jour de Kippour. Combien ça fait Satan en gamatria?
C'est la même chose
que lui. Non, répondez à la question que je pose. Comment ça fait Satan? Chin, 300. C'est 59. Alors, Hassadan, ça fait 364. Il y a 364 jours de l'année où le Satan est fort, sauf un jour, c'est le jour de Kippour. Parce que c'est 365, les jours de l'année. Bon, je referme la parenthèse. Alors voilà, le monde est en lui-même, possiblement bracha, possiblement klala. Si j'avais le temps, je ferais une analyse sémantique des termes de bracha et klala. Mais je vous l'ai dit l'essentiel rapidement. La notion de bénédiction en hébreu n'existe pas dans une langue comme le français. Dans une langue comme le français, il faudrait employer les termes de bénéfaction. Parce que bénédiction, ça veut dire le bien de. Alors qu'il s'agit du bien fait. Le bien qui est fait, pas le bien qui est dit. Le tov, la bracha. Quand je dis que quelqu'un est béni en français, ça veut dire qu'on a souhaité qu'il soit béni. Mais qu'est-ce que ça veut dire béni? Vous avez compris ma question? Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite quand on souhaite à quelqu'un qu'il soit béni? Alors, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui est plus que lui-même. Une densité d'être qui dépasse soi-même. Et dont le signe est la procréation. On apprend, là nous avons une règle importante. Si on veut comprendre le sens biblique d'un mot biblique, il faut le comprendre dans le premier contexte où il a été employé. Le premier contexte où le mot de béni a été employé, c'est le contexte de la procréation. Et il les bénit, il leur dit, croissez et multipliez. Et en hébreu, c'est, le verbe est transitif. Il les a rendus bénis, c'est-à-dire il les a rendus féconds. Et puisqu'ils étaient féconds, capables de procréer, mitzvah, ordre, obligation, croissez et multipliez. La Gemara discute si ce verset signifie que le souhait de la bénédiction, c'était de croître et multiplier, ou si croître et multiplier, c'est un commandement, un ordre. Et la Gemara conclut, c'est un ordre. Il y a une mitzvah d'avoir un fils pour croître et une fille pour multiplier. On va décrypter le sens des mots. Parce qu'en français, croître et multiplier, ça ressemble comme des pléonasmes, on dit.
Hein?
Mais en ancien français, non. En ancien français, croître et multiplier avait le sens, comme en hébreu, le sens différent. Pérou, c'est donner un fruit. Fructifier. Et rebou, multiplier le fruit. Et un ordre. faut d'abord donner le fruit et ensuite le multiplier. C'est pourquoi le principe de Pérou, c'est qu'il faut avoir un Zahar, et le principe de Rebou, il faut avoir une Nekeva. Parce que le principe de la mère est de multiplier le fruit que donne le père. C'est plus complexe que ça, d'ailleurs. Enfin, schématiquement. Et si j'avais le temps, je vous citerai un texte de la Bible qui montre que les causes profondes du déluge viennent de ce qu'on a commencé à multiplier avant de fructifier. Je vous dis le verset en hébreu. Vaïi, ki echel ha-adam laro al-pene adama ou banot yululaim. Et il arriva, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre, des filles leur furent nées. C'est un verset incompréhensible. S'il se multiplie, il y a des filles et des garçons. Okay. En réalité, regardez en hébreu, il y a écrit Vaïi, ki echel adam laro. Il n'y a pas écrit Vaïi, ki echel adam rov. Il n'y a pas écrit comme j'ai traduit d'abord, comme on traduit classiquement, et il arriva lorsque l'homme eut commencé à se multiplier. Il y a écrit, et il arriva lorsque l'homme eut commencé par se multiplier avant de fructifier. C'est-à-dire, lorsque un modèle d'humanité se multiplie avant d'arriver à sa vraie maturité, il y a une multiplication de brouillons, il y a des masses humaines qui apparaissent, et alors c'est une catastrophe pour la civilisation en question. C'est la notion de masse que M. Neher a beaucoup étudiée à propos de Babel et qui est l'indice que la civilisation arrive à une crise. La notion de massification. Quand on parle des masses, la dignité de chaque personne individuelle disparaît. Je ne sais pas si vous avez un peu cette catégorie. Effectivement, c'est une civilisation perdue lorsqu'on commence à parler le peuple, les masses, la foule. Tout ça, c'est l'impersonnel qu'on installe dans la valeur de la personne. C'est l'assassinat de la personne. Eh bien, lorsque ce que dit le verset, l'ordre, c'est le commandement, c'est Pérou au bout, donnez le fruit. Et quand le fruit est là, multipliez-le. Mais si on commence à multiplier des brouillons, alors c'est la catastrophe. C'est clair. C'est un grand privilège que le peuple d'Israël est un peuple de petit nombre. Et les grands peuples de grand nombre, c'est les grands empires qui finissent par s'autodétruire parce qu'ils ont multiplié des brouillons d'identité. Bon, je referme la parenthèse, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais enfin, simplement pour indiquer cela. Alors oui, le mot de bénir, ça veut dire rendre fécond. Une chose bénie, un être béni, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est plus que lui-même. Et le signe, c'est la procréation. Être capable de créer. L'être créateur, c'est l'être béni. C'est clair? Donc, alors ça, c'est densité de l'être, la bracha. Et la malédiction, c'est l'inverse. C'est un être vidé de lui-même. C'est klala, vous voyez, dans klala, il y a kal. Kal, kuchlamen, léger, fantomatique. Hein? Le fantôme, c'est mekul kal, si j'ose dire. Mais là où je voulais en arriver, c'est tout à fait une autre indication. C'est « ré » voix est au singulier. « Anochi note nifneche mayom » c'est un pluriel. Vous voyez, le verset s'adresse à l'individu, voix au singulier, et ensuite « désigne la collectivité devant vous au pluriel. Alors je voudrais analyser ce principe. Si on n'a pas le temps de voir le deuxième texte, vous l'aurez là, vous le distribuerez pour ceux qui s'appliquent. Vous voyez, j'ai toujours cette imprudence de commencer par des introductions. On n'a pas perdu notre temps. C'était un contenu d'étude, mais enfin, ce n'était pas ça qu'on voulait étudier. Alors voilà ce à quoi je voudrais d'abord le rattacher. Ce principe, une minute que j'éclaircisse ma voix. Voilà. Vous avez remarqué que la Torah formule ses commandements au futur. Mais on entend le futur du commandement comme si c'était un impératif. Vous avez remarqué ça? Et il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire, même dans les endroits qui peuvent vous paraître comme des exceptions, il y a un infinitif qui est en réalité un sens du futur. Par exemple, Shamor et Yom HaShabbat, ça veut dire il y a à garder. Et alors, on va se demander pourquoi la loi ne se formule pas à l'impératif. Elle se formule au futur, mais on l'entend comme un impératif. Par exemple, il y a écrit « L'otirtsakh », « Tu ne tueras pas ». On l'entend dans le sens de « Ne tue pas ». Alors voilà, je vous donne tout de suite sans les intermédiaires, l'enseignement que nous a donné le Rav Kook à ce sujet, c'est que la loi s'adresse à la collectivité d'Israël comme une promesse. Et cette promesse est entendue par l'individu au sein de la collectivité comme un commandement à être celui qui mérite la promesse. Et vous avez compris, l'explication est très simple, mais elle est très profonde. Ça veut dire, tout se passe comme si la Torah s'adresse à Israël en lui disant, si tu es Israël, je te promets, tu ne tueras pas. Et donc, l'individu dans la collectivité d'Israël entend cette promesse comme une obligation à faire coïncider son être au niveau d'envergure de l'être de la collectivité à qui la Torah a promis ce qu'elle a promis. C'est clair ? C'est la seule législation qui est dans ce cas. Ça veut dire que je vous donnerai d'ailleurs un autre exemple, c'est l'exemple de la prière, que je reviens après au premier exemple. Dans l'exemple de la prière, nous avons à peu près la même dialectique. On obtiendra que ce que l'on mérite. Alors pourquoi il faut le demander ? Parce que c'est dans le fait de le demander qu'on le mérite. C'est-à-dire, avant que j'ai demandé, je n'avais pas de mérite suffisant pour le recevoir. Le fait de le demander m'ajoute ce mérite qui me manquait pour le recevoir. Parce qu'en fait, la formule fondamentale de toute prière, c'est que ta volonté se fasse. Le vrai problème, c'est pourquoi elle ne se fait pas. C'est-à-dire, le désir de celui qui donne est de donner. Comment c'est que je ne reçois pas ? C'est parce que je ne mérite pas de recevoir. Donc il faut me modifier, faire de moi quelqu'un qui mérite de recevoir ce que celui qui donne veut donner, pour que cela me soit donné. Vous voyez la même question. Puisque dans tous les cas, je n'obtiendrai que ce que je mérite, pourquoi il faut le demander ? Je citerai deux enseignements des chassidim à ce sujet. D'abord, un enseignement du Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov, avant de prier, quelque prière que ce soit, faisait une prière préalable pour demander de rester en vie après la prière. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il enseigne que dans toute prière, l'âme demande de remonter là-bas. C'est-à-dire, au fond, quel est l'objet de toute prière ? C'est que l'exil de la condition de créature prenne fin. Que ta volonté se fasse. Mais sa volonté, c'est que je sois près de lui et pas loin de lui. La condition de créature, c'est cet exil. Quand Dieu me crée loin de lui. Et il faut que je mérite le retour. Ça s'appelle la tshuva, d'ailleurs. Et donc, toute prière, ça consiste pour l'âme à réaliser son désir de remonter là où elle était, dans la félicité. Bon. Il y a beaucoup de midrashim d'ailleurs dans Zohar qui parle de cela. On a demandé à l'âme pour quel intérêt elle accepte de descendre dans ce monde que j'ai décrit tout à l'heure, le monde de boue, de sang, de ce qui se passe dans le monde. La réponse du Zohar dans la parasha de Vaera dans le Zohar est extrêmement profonde, enseignée à propos de Abraham. Il dit voilà, l'âme là-haut est comme une fille dans la maison de son père. Elle a toutes les félicités au palais de son père. Elle accepte de descendre en bas pour pouvoir remonter comme une femme dans la maison de son mari. Parce qu'il y a une grande différence. Avant la vie terrestre, elle a tout reçu sans l'avoir mérité. Après la vie terrestre, elle est chez elle en l'ayant mérité. C'est clair ce que je dis là. Alors pourquoi elle accepte ce péril de descendre dans le monde d'en bas ? C'est pour pouvoir remonter dans une dignité qu'elle n'avait pas avant. Est-ce que c'est clair ? Et effectivement, on pourrait se demander, elle était aussi bien là-haut. D'ailleurs, si on sait ce que c'est que l'exigence de la vie intérieure, de l'âme, on se rend compte que l'âme n'a qu'un seul désir, c'est de remonter. Et il faut qu'elle soit enchaînée en bas par ce que les psychologues appellent les yetzer, les pulsions, pour qu'elle consente à rester en bas. C'est le yetzer rare qui nous attache en bas. Il a une fonction, une finalité très importante. Si je n'ai pas de yetzer rare, je remonte comme une montgolfière, tout de suite. C'est le Yetzer Hara qui m'accroche en bas. C'est pourquoi celui qui n'a plus de Yetzer Hara est considéré comme mort. Je sais pas si vous connaissez cette gamara. Celui qui n'a plus de désir est considéré comme mort. Et alors, c'est un thème aussi extrêmement vaste. Pourquoi je vous ai cité ça ? La prière du Baal Shem Tov. Alors avant de prier, il demandait de rester en vie après la prière. Alors, si sa prière était sincère, il montrait avec sa prière. Alors il demandait de rester en bas après la prière. Et puis une autre histoire, je voudrais vous raconter, qui me semble extrêmement éclairante. On raconte qu'un jour, il y avait un tzaddik et ses élèves qui étaient en bateau. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Et puis une grande tempête qu'il y a eu dans la mer. Le bateau allait sombrer. Alors qu'est-ce qu'a fait le rabbi? Il a pris le chauffard, il a sonné du chauffard et la tempête s'est calmée. Alors ses élèves lui ont dit que c'est de la magie. Il y a une tempête, tu sonnes du chauffard, elle se calme. Il dit pas du tout, on allait mourir. Avant de mourir, je me suis dit, c'est Rosh Hashanah, on va faire encore une mitzvah. Et par le fait qu'on ait fait une mitzvah, la tempête s'est calmée. C'est pas le chauffard qui a calmé la tempête, c'est la mitzvah. Tu vois, c'est clair. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, il faut bien comprendre cela. Il y a un lien entre l'individu dans la collectivité et la collectivité elle-même. Alors, voilà quel est le paradoxe apparent. Chaque fois que la Torah emploie un singulier, elle parle de la collectivité. Et chaque fois qu'elle parle de l'emploi le pluriel, elle parle de l'ensemble des individus. Ré, voix, Israël. Anochi noten ifnechem. Je donne devant chacun d'entre vous. Mais les deux lectures sont vraies. Voix, ça s'adresse à l'individu, mais ce qui est annoncé concerne la collectivité. Mais en fait, dans le sens littéral, voix, ça s'adresse à la collectivité et ça concerne chaque individu en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la collectivité et l'individu sont concernés de façon différente. La collectivité est concernée dans la dimension de la promesse. C'est inconditionnel. Dieu sait, et la Torah l'explique dans toute sa partie historique, pourquoi il a choisi Israël. C'est pas arbitraire. Depuis le premier homme, la Torah raconte l'histoire des hommes pour expliquer pourquoi c'est par Israël que ça passe, si j'ose dire, et pas par les autres lignées. Mais c'est depuis le premier homme que cette histoire est analysée. Et voilà depuis le premier homme quelles sont les destinées des lignées, et puis on arrive à Abraham, et d'Abraham, pas tout Abraham, Ishmael d'un côté, et Esav de l'autre, par Isaac, c'est Jacob qui devient Israël. C'est cette histoire qu'il faut apprendre pour comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël. À partir du moment où il s'agit d'Israël, au niveau de l'identité collective, c'est inconditionnel. Maintenant, le problème de l'impératif de l'accomplissement de la loi concerne l'individu. Et ça veut dire à quelles conditions, moi, individu, je fais partie d'Israël. Donc, pour Israël comme collectivité, il n'y a aucune condition pour l'accomplissement de promesses. C'est pour l'individu qu'il y a un problème. À quelles conditions tu fais partie de cette collectivité, et il y a une invitation par obligation à faire coïncider, équivaloir son niveau d'être individuel au niveau d'être de la collectivité Israël. Je vais vous donner deux implications de cela, et je vois qu'on arrivera à l'heure. Le milieu religieux est divisé sur ce problème. Énormément de religieux de bonne foi sont persuadés qu'on aura avec Israël que si on le mérite. Que si on le mérite. C'est une erreur totale. Il n'y a pas de condition de l'appartenance d'Eretz Israël à Israël. C'est clair, c'est une promesse. Et cette promesse, Dieu sait pourquoi. Il la confirme à la seule descendance d'Abraham qui est véritablement hébreu, c'est-à-dire Jacob qui est devenu Israël. Tout ce qui vient d'Abraham l'hébreu n'est pas Israël. Et donc, il a fallu que Dieu se révèle à Abraham que c'est à sa descendance que cette part des Hébreux est confirmée. Et c'est Jacob qui a mérité le nom d'Israël. La promesse de cette terre est inconditionnelle. C'est l'individu qui est en question. À quelles conditions je mérite de faire partie de l'accomplissement de cette promesse? Alors, je voulais mettre ça en évidence. J'ai déjà oublié l'autre exemple, mais ça va peut-être me revenir par association d'idées. Voilà ce que je veux dire. C'est une très grave erreur de croire qu'il faut mériter l'État d'Israël pour avoir le droit d'obtenir l'État d'Israël. C'est tout le contraire de ce que la Torah enseigne. Je vais raconter une histoire pour vous dire comment j'ai vécu ça. J'étais l'élève d'un très grand maître talmudiste, je vais vous dire d'ailleurs qui c'est, à Paris, c'est le Rav Rotenberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rotenberg, la rue Pavée, le père. C'était vraiment un des plus grands talmudistes qu'il y avait en son temps en Europe. J'en ai connu qu'un deuxième, qui lui était Sfarad, et Sfarad, c'est le Chacham Dahan. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris. Vous avez entendu parler de Chacham Dahan. C'est une tête extraordinaire. Un talmudiste, comme il n'y en a pas deux. Enfin, il y en avait un deuxième, c'était Rav Rotenberg. Mais en plus, Rav Rotenberg, c'est plus qu'un talmudiste, c'est un grand chassid. Et je peux dire que je me considère comme son ami. Je ne sais pas s'il m'a considéré comme son ami, mais en fait, j'étais chez lui comme chez moi. Et un jour, je lui ai dit, voilà, je m'en vais vers Israël. Il m'a regardé épouvanté. Maman, je suis épouvanté. Il me dit, comment? Où tu prends ce courage d'aller en Israël? Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, je prends ce courage? Où j'ai pris ce courage de rester en Kutz-Lavet pendant 20 ans, enfin en France. C'est un autre sipon. Je vais venir en Israël 20 ans avant, j'étais en service commandé pendant 20 ans à Paris. 20 ans de travaux français. C'est une autre histoire. Et puis, il me dit, écoute, en Kutz-Lavet, on n'a affaire qu'avec la tentation des Sarim, les anges des nations. Mais en Eretz Israël, c'est le diable lui-même qui est contre nous. Et je ne sais pas si vous comprenez sa logique. Hein, c'est-à-dire, Israël, c'est le bien absolu. Donc la tentation du mal, c'est la tentation du mal absolu. Et tu as le courage d'aller là-bas. Je l'ai regardé, moi, épouvanté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on ne peut pas discuter à ce niveau-là. Et alors vous avez énormément de juifs pieux qui sont persuadés qu'il faut mériter avec Israël. Alors que c'est Dieu qui nous la donne. Et alors, il faut reliser tout le dialogue entre Dieu et Abraham, quand Dieu lui confirme à Abraham que sa descendance aura cette terre, et qu'Abraham discute. Je vais essayer de formuler cela de deux manières. Dieu dit, c'est toi. Et Abraham, ça c'est la vertu d'Abraham. Abraham lui dit, t'es sûr? Et il s'adresse à Dieu, et t'es sûr? Mais c'est exactement l'interpellation de notre histoire. Au bout de 2000 ans, je lui ai dit, allez bon, rentrez à la maison. Et puis les juifs disent, tu crois? D'accord. Et la deuxième chose, ça m'a passé l'idée. Qu'est-ce que je disais quand je vous annonçais deux choses? C'était quoi? Non, c'est un problème important, d'ailleurs. Il y a des torsions de la conscience juive qui est que, surtout, ne dites pas que la promesse s'accomplit, parce que si la promesse s'accomplit, elle cesse d'être une promesse. Alors, oui, il mérite de croire dans une promesse, elle s'accomplit. Vous avez un grand philosophe israélien qui parle comme ça, c'est Leibovitch. Hein, il dit le Messie qui vient, c'est un faux Messie, parce que s'il vient, on n'attend plus. Donc c'est un hérétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon, ça va dans ce sens-là. Que la vertu, ça consiste à attendre, à espérer. Et que l'accomplissement d'une promesse est le contraire de la promesse. Non, vous avez raison, il n'y a pas de l'autre problème. Il y a...
Le monde religieux.
Comment ?
Ce que vous aviez demandé...
La deuxième. Non, la première déjà aussi.
Les deux choses.
Bon.
Les deux positions.
Oui, ça m'échappe. Mais enfin, la première déjà est suffisamment éclairante. C'est-à-dire de croire qu'il y a un livre que je conseille de lire. C'est le livre d'Abraham Nivni, qui a écrit un livre à ce sujet. Vous connaissez ce livre-là ? Comment il s'appelle ? Rappelez-vous. Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Et l'espérance du monde. Il a très bien démontré, parce qu'il a eu à s'occuper de ces thèses chrétiennes, de la théologie de la promesse. Vous savez qu'il était d'origine protestante, et il connaissait très bien cette théologie-là. Et d'ailleurs, je dois vous dire que son livre a été réécrit plusieurs fois, parce que les premières rédactions étaient trop violemment antichrétiennes. Les éditeurs n'ont pas accepté d'éditer des choses trop polémiques. Et finalement... Même à ce niveau-là, le monde chrétien a fait un tabou sur son livre, comme si, je pense même que beaucoup d'exemplaires ont été achetés par l'Église, de telle sorte qu'il y ait moins de lecteurs. Monsieur Oukazé. Quoi qu'il en soit, il va être réédité en hébreu. Et, enfin, la traduction hébreu, il va être réédité. Nous aurons d'ailleurs une séance pour le lancement du livre, dans pas longtemps. Bon, voilà en tout cas ce que je voulais vous citer à ce propos. Alors là, je voulais qu'on étudie un enseignement du Midrash sur une expression qui revient souvent dans la paracha. Ish ayashar benav yaaseh. que chacun fait ce qui est droit à ses yeux. Et l'expression qui est opposée, vous lirez dans le texte de la paracha, c'est « Ayachar b'ene Hashem », ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais il y a un verset, c'est le verset 28 du chapitre 12, où il y a l'expression suivante, mais vous lirez ce que dit le Midrash. Le verset 28, oui. Et une minute que je vous... Voilà. שמור ושמחת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מסביבך למען יטב לך ובניך אחריך על עולם כי תעשה הטוב והישר לוסקי תפרה לוסקי תקומפליקה לוסקי תקומפליקה לבין ולדרוע ואין אשר אנוכיך עוזיו דה אשר תונדיו אלא למדרש אקספיק כסק עושה כלבין כסק עושה כלדרוע עוזיו דה דיו כבול לראה ממהם דה למדרש זה הופכה דה שיעורי בית. Mais juste quelques explications sur le premier verset. Il ne faut pas se tromper. Lorsque le verset dit « Chacun faisait ce qui est droit à ses yeux », ce n'est pas arbitraire comme ça. Le sens que ça a pris finalement en français. « Nish asher ayashar beina viarase » même en israélien moderne, ça veut dire « caprice ». Chacun juge bon ce qu'il veut. Il faut le prendre à la lettre. Ce qui est droit aux yeux de chacun, mais droit. Ish ayashar be'enav. Il y a ce qui est droit aux yeux de l'homme, il y a ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais ce qui est droit aux yeux de l'homme, c'est droit. Mais à un certain niveau, ça va. Vous verrez l'explication dans le Midrash, c'est ce que je voulais vous citer. La prochaine fois, essayez de m'empêcher de vous faire des introductions, qu'on puisse entrer dans le jeu. Bien. Alors, on va rester pour Arbi. Et puis, à la semaine prochaine.
Vous envoyez des...
Pardon.
Vous envoyez des...